Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archi podcast season 3.
Saison 3 dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Depont, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Marine Houdard. Bonjour Marine.
Bonjour Anne-Charlotte.
Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes urbaniste et architecte HMNOP et vous venez d'être primée dans le cadre d'Europan 16. Je rappelle qu'Europan est un concours européen, voire international d'architecture, d'urbanisme et de paysage, un concours d'idées, dont nous avons reçu la directrice en juin 2021, dans la saison 2, hashtag 78, hashtag 79, épisodes qui sont bien sûr toujours en ligne. Et si vous souhaitez corréler les écoutes entre la période qui précède le concours et les primés d'aujourd'hui, dont nous recevons pour la première fois dans Comme d'Archi, l'une des primées, vous Marine. Alors, vous avez été primée avec Lydia Blasco-Rubeyo, architecte urbaniste, comme vous, et Benoît Danel Lefebvre, paysagiste, en tant que runner-up, c'est-à-dire deuxième prix, c'est ça ?
Oui.
Pour le site de Bassins à Bordeaux, dont nous allons reparler. Alors, dans votre parcours, vous êtes passé par la très grande et historique agence SOM, Skidmore, Owings & Merrill, auteur du John Hancock Center, entre autres, à Chicago. Mmh. Sur votre profil LinkedIn, il est stipulé que vous êtes directrice du développement urbain dans la grande agence de Dominique Perrault Architecture, et on se demande, est-ce toujours le cas après votre prix? Vous réservez votre réponse?
Oui, non, je suis toujours chez Dominique Perrault.
Bon.
Oui.
Alors, on va commencer par le début. Quel est votre parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Et quelles ont été vos études?
Merci pour cette présentation. Alors, pour revenir un peu sur mon parcours, ou en tout cas ma jeunesse, je dois dire qu'à la base, rien ne me prédestinait vraiment à être architecte. Mais j'étais assez créative, assez sensible au dessin, à la peinture, mais je n'avais pas vraiment conscience du métier. Je ne connaissais pas d'architecte ni d'urbaniste. Et pendant mon lycée, je vivais avec ma demi-sœur, qui, elle, était dans une école d'architecture, qui revenait souvent avec des maquettes que je trouvais incroyables. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce métier, à ces études en tout cas, qui je crois me correspondaient assez bien. Et j'ai intégré l'école d'architecture de Paris-Belleville, où je suis sortie diplômée en 2017. Et dans le cadre de mes études, je me suis passionnée un peu plus chaque année pour ce métier. J'ai découvert un petit peu tous les différents possibles que ces études pouvaient ouvrir, pas seulement le métier d'architecte, mais beaucoup d'autres opportunités. Et puis j'ai développé petit à petit un intérêt assez poussé pour l'urbanisme, et donc l'échelle urbaine, qui aujourd'hui est vraiment ancrée dans ma pratique.
Et à votre avis, qu'est-ce qui vous a poussé à cette appétence pour le territoire, l'urbanisme?
Alors, je dirais que c'est un... J'ai commencé à travailler, j'ai fait un premier stage. J'étais partie en Inde faire un échange universitaire à Ahmedabad, dans le nord de l'Inde. Et c'était un peu mon premier grand voyage, grande expérience, où je suis partie un an à 20 ans dans ce pays qui est assez fascinant. Et là-bas, j'étais à l'université et je trouve que les cours n'étaient pas forcément... en tout cas à la hauteur, ou en tout cas ce que j'espérais. Et au culot, j'ai un peu tapé à la porte de l'architecte Balkrishna Doshi, qui était à la fois enseignant à Ahmedabad dans cette université et qui dirige encore son agence là-bas pour demander une position de stagiaire, que j'ai obtenue. Et donc j'ai pu travailler chez Doshi en Inde. Et là, j'ai un peu découvert, avec ce premier stage quand même très intéressant, j'ai découvert vraiment une pratique plus durable, plus urbaine aussi, parce qu'il s'est trouvé que j'ai travaillé sur des projets urbains. Et le fait d'être au contact de ces villes indiennes, d'avoir pu voyager, m'a fait réaliser aussi tout un certain nombre de défis urbains extrêmement actuels.
D'accord. Donc, en fait, dans cette agence, l'appétence pour le durable est déjà très ancrée.
Oui, très ancrée. Et disons que c'est une échelle... Non, pas forcément plus qu'en France, mais en tout cas, moi, j'ai découvert cette notion un peu de durabilité. Mmh. J'ai découvert une autre échelle, une autre approche de l'architecture qui n'est pas forcément celle d'un objet construit, mais qui peut aussi être un processus, un dialogue avec différents acteurs, une observation de la ville. Et, disons, j'ai un peu pris la distance avec l'architecture à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que c'était extrêmement intéressant, ça m'a plu. Et petit à petit, j'ai commencé à essayer d'axer un petit peu plus ma pratique sur une échelle urbaine avec laquelle je me sentais moi aussi plus à l'aise et que je trouvais particulièrement intéressante parce que ça permet aussi de travailler avec, de toucher à des sujets économiques, politiques, sociaux.
Oui. Finalement, ça permet peut-être de faire la synthèse. D'avoir accès à une possibilité, un champ des possibles par rapport à une synthèse.
Oui, tout à fait.
Et du coup, vous êtes resté combien de temps là-bas ?
Je suis restée un an en Inde. Alors j'ai pas eu mon année évidemment parce que j'ai arrêté. j'ai fait un break d'un an, mais néanmoins c'était quand même extrêmement intéressant et j'ai finalement beaucoup gagné parce que ça m'a ouvert. Le champ des possibles, en tout cas, de cette pratique. Et ensuite, petit à petit, dans mes études et dans mes premières expériences professionnelles, j'ai vraiment essayé de travailler à cette échelle urbaine. Et j'ai décidé d'ailleurs de partir 3 ans. Donc, j'ai travaillé à la fin de mon... Une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai intégré l'agence UAPS, qui est une agence d'architecture et d'urbanisme tenue par Admi de Poit, dans laquelle j'ai travaillé 3 ans et demi. Et après, j'ai fait le choix de continuer à me former. Et je suis partie aux États-Unis faire un master d'urban design à l'université de Berkeley. Mmh. Voilà. D'où l'expérience ensuite chez SOM dont vous parliez dans votre introduction.
Voilà. Et du coup, chez SOM, je crois que vous étiez à San Francisco.
Oui, j'étais à San Francisco,
Parce que, de mémoire, ils sont basés à Chicago.
Le siège est à Chicago, mais c'est une des agences les plus importantes.
Ouais,
et donc,
monde,
en fait, ils ont des bureaux absolument partout. Et ils ont un des bureaux importants à San Francisco aussi.
Alors, mais comment vous avez réussi à rentrer chez eux ?
Je suis rentrée chez eux justement parce que j'ai fait ce master à Berkeley. Et dans le cadre de ce master et de cette formation, qui est un master professionnel ouvert aux jeunes architectes, aux jeunes professionnels. Donc c'est une sorte de ce qu'ils appellent une thèse en fait, sur le modèle américain, mais qui n'est pas forcément l'équivalent d'une thèse en France sur 5 ans. Mais ça permet effectivement, dans le cadre de ce master, de rencontrer un certain nombre de professionnels et d'avoir des liens avec ces grandes entreprises américaines qui offrent des premiers jobs à ceux qui le souhaitent.
Mais il doit y avoir quand même beaucoup de postulants, non ?
Oui, il y a beaucoup de postulants. Il y a beaucoup de postulants. Mais voilà, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir intégrer cette agence.
Et la vie là-bas, c'est comment ? Quand on est jeune architecte et qu'on débarque dans ces très grandes structures, parce que les échelles sont quand même différentes.
Oui, les échelles sont différentes. La vie là-bas est... Bon, moi, j'ai évidemment trouvé ça absolument génial parce que c'était sur un temps court et parce que j'ai pu aussi vivre l'expérience de Berkeley, d'un campus qui n'est pas tout à fait à San Francisco même, mais qui est à Berkeley. Donc là, la vie sur le campus était vraiment passionnante. La vie à San Francisco était aussi tout à fait incroyable. Mais voilà, c'est aussi des villes qui paraissent complètement idylliques. Et puis quand on voit au quotidien, justement, et qu'on est confronté à la pauvreté qu'on voit dans les rues, au décalage entre ce qu'on entend, ce qu'on lit et puis ce qu'on voit, on se pose aussi beaucoup de questions. Donc c'est une expérience très riche. Mais c'est vrai qu'il dévoile aussi une facette de l'Amérique avec beaucoup de contradictions.
Oui, à la fois le chill, c'est ça ?
Oui.
Et le... En effet,
les SDF,
et puis la violence. Je vous entends bien parce que ma fille habite San Francisco.
Ah, voilà. Mais c'est vrai qu'on est frappé quand on arrive à San Francisco, la ville est incroyable, on est frappé de voir ce nombre de SDF dans la rue.
Et il paraît que oui, c'est une loi qui est passée, qui prend plus en charge, je crois, les déficients mentaux. Mmh. Et en fait, comme le climat est très doux là-bas, ils se retrouvent tous à aérer dans les rues de San Francisco.
Ouais.
C'est fou.
Ouais.
Pour les architectes et les urbanistes, c'est un sacré cas d'école.
Ouais,
mais
ouais.
Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose ? C'est le politique.
Ouais, mmh. Ouais. Mmh. Il faut espérer. Il faut espérer qu'on puisse effectivement faire quelque chose.
Et donc, dans cette grande agence, vous arrivez à vous intégrer à...
Oui. Alors, c'est une grande agence, mais qui est séparée en plusieurs pôles. Il y a un pôle qui s'appelait le pôle Urban Design, avec une vingtaine de personnes. Mm-hmm. Et là, j'ai travaillé sur un projet complètement pharaonique, puisque c'était une ville nouvelle en Chine. Mm-hmm. Donc, un projet à la fois passionnant, en même temps, moi qui m'intéressais un peu à l'approche durable, qui pose quand même aussi des questions de venir créer une ville nouvelle de toutes pièces sur un site complètement naturel en Chine, avec, en imposant un peu la grille à l'américaine. Donc à la fois une approche intéressante avec des architectes, des urbanistes qui sont intéressants, parce que c'est quand même une grande agence, mais en même temps ça questionne aussi sur, voilà, sur ce genre de projets qui sont quand même un peu pharaoniques, où tout est conçu à San Francisco, alors que la ville est évidemment en Chine. Sans concertation, avec une commande politique extrêmement forte, mais aucune concertation, un déplacement des populations. Enfin.
D'accord. Et là, on minéralise les sols ?
Non, pas forcément. Pas forcément. Alors, on a quand même une approche très vertueuse.
Oui.
Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le genre de projet sur lesquels...
culturellement.
C'est un idéal pour moi, disons. Ce n'est pas forcément l'approche dont je rêve, mais... Mais elle a quand même des vertus aussi. Et donc je ne critique pas tout, mais disons que je préfère les projets sur lesquels je travaille aujourd'hui.
Bon, bah vous allez nous en parler. Vous venez de gagner Europan. Vous avez un poste assez important dans l'agence de Dominique Perrault. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez quand vous êtes sortie de l'école ?
Oui, je dirais en partie.
Vous avez tenu vos objectifs.
Oui, je pense que je suis plutôt satisfaite de ça. Je dirais que, on va dire qu'à 80%, j'ai tenu mes objectifs.
Vous êtes encore très jeune, donc vous avez...
Merci. Mais...
vous avez encore plein de rêves, j'imagine.
Oui. Non, mais c'est vrai que j'avais très envie de voyager, j'avais très envie d'apprendre des meilleurs auprès de grands architectes, de travailler sur des projets à fort impact et éventuellement de mettre à mon compte. Et donc aujourd'hui, un peu moins de 10 ans après, j'ai effectivement eu la chance de travailler dans beaucoup de pays, à la fois aux États-Unis, au Chili, en Inde, au Cambodge.
Vous n'avez pas encore parlé du Chili et du Cambodge.
Non, voilà. Mais c'est vrai que j'ai appris auprès de grands talents, comme Doshi, on en parlait, auprès d'Alejandro Aravena aussi, qui sont tous les deux lauréats du Pritzker, Dominique Perrault, bien sûr. Et j'ai eu la chance de mener des projets d'envergure, puisque chez Dominique Perrault, j'ai été responsable du projet de village olympique pour les Jeux de Paris 2024. Mmh. Donc voilà, beaucoup de choses qui sont intéressantes et que j'espérais quand je sortais de l'école. Et puis voilà, il me reste encore maintenant à me lancer. Mmh. Une aventure entrepreneuriale que je souhaite, qui est évidemment un projet que je n'ai pas abandonné et qui devrait se réaliser dans les années à venir.
Oui. Alors l'agence Perrault va vous regretter si vous partez, mais c'est le chemin un peu normal.
Oui,
On peut peut-être pas en parler encore.
Non.
Vous êtes bien dans votre poste.
Oui, je suis très très heureuse.
Bon, alors est-ce que vous voulez nous parler du Chili, du Cambodge ?
Oui, je peux parler effectivement peut-être du Cambodge. C'est vrai que j'ai eu la chance d'y aller pour un workshop dans le cadre universitaire. Et puis ensuite, avec des amis, j'avais répondu à un concours pour faire un prototype d'une maison à moins de 2 000 $ au Cambodge. Et on a remporté ce concours. Et ensuite, on a décidé de réaliser ce projet, de faire une collecte via du crowdfunding, de retourner sur place et d'essayer de le construire, de le financer. Donc on y est retourné. Alors finalement, le projet de maison s'est transformé en un projet d'école, puisqu'il nous fallait un site. Donc on a trouvé un site qui était une association dans laquelle c'était une école. Et en fait, ils avaient besoin d'avoir une extension, une école de danse, etc. Donc on a eu la chance de pouvoir réaliser notre premier projet là-bas, à Kep, dans le sud du Cambodge. Donc ça, c'est vrai que c'était assez incroyable. Le projet est toujours là.
Et vous avez suivi la construction ?
Oui, on a suivi la construction, on est resté sur place pendant 3 mois. On a suivi la construction, on a cherché les matériaux sur place, on a essayé de faire le plus économe, le plus durable, le plus...
Du bambou ?
Du bambou, du béton. Mais vraiment, on a essayé de trouver ce qu'il y avait vraiment sur place. Quand on dit sur place, c'est vraiment dans un rayon de 5-6 kilomètres, avec les locaux, Et c'est vrai que c'était passionnant parce qu'en fait, on l'a expérimenté. Et ça, c'était une expérience assez incroyable.
Et le Chili ?
Et le Chili, là, c'était aussi dans le cadre d'un... Je suis partie pour faire des recherches pour mon mémoire, où je m'étais intéressée au travail de Aravena, et notamment sur ces projets de logements sociaux où l'idée était de financer, avec l'aide des financements publics qui finançaient une partie des logements. Lui avait cette vision où, en fait, avec l'argent qui était donné, il construisait 50% des logements et laissait les 50% restants pour de la co-construction avec les habitants. Donc j'étais partie faire des recherches un peu sur cette vision du logement social et comment est-ce qu'il mettait en place, en se servant des outils politiques et économiques du pays, comment est-ce qu'il arrivait à mettre en place ces projets.
Donc en tant qu'observateur
en tant que chercheuse, quoi, pour essayer de vraiment d'aller sur place, de rencontrer et de comprendre comment sa démarche pouvait se mettre en place.
Alors, on a déjà entamé bien l'histoire de vos projets, mais peut-être que vous aviez une manière de le raconter. Et on voit d'ailleurs que vous avez déjà une histoire de projet alors que vous êtes encore salarié dans une agence. Donc à la fois, ça prouve une forte implication dans votre travail et puis une personnalité. Alors, je vous laisse dérouler peut-être.
Oui, alors c'est vrai que l'histoire de mes projets, je ne sais pas si je peux encore regrouper tous ces projets sous une même histoire, parce qu'en fait c'est une histoire qui est liée à plusieurs opportunités, différents pays, différentes collaborations. Ce que je cherche à faire, c'est vrai, c'est d'avoir toujours une sorte de pratique un petit peu active, qui va, en plus de mon activité de salarié, d'essayer de faire des concours, dont évidemment on reprend, d'essayer de continuer à m'interroger sur des problématiques... qui évidemment m'intéresse, et d'être un peu de sortir un petit peu du cadre purement du salariat. Et c'est vrai que l'histoire des projets, c'est un peu difficile, mais je dirais qu'en tout cas, pour peut-être faire le pont avec Europan, dans le cadre de mon master aux États-Unis, je me suis intéressée à la problématique des ports et de développement industriel, des industries en ville de manière plus générale, parce qu'on observe depuis quelques années maintenant un déplacement des industries portuaires ou fluviales, toujours un peu plus loin. Donc on déplace les industries au fur et à mesure que la ville grandit, et puis on vient réaménager ce qu'on appelle les waterfronts, donc tous les fronts de mer, les fronts de rivière, avec des développements urbains, paysagers qui sont très intéressants, mais qui ne font toujours que déplacer les industries un petit peu plus loin.
Et est-ce que dans ce déplacement, ça, au passage, ça laisse des friches aussi ?
Et ça laisse des friches, ce qui est intéressant, mais moi, j'ai essayé de m'intéresser à la question de comment est-ce qu'on peut préserver une industrie en ville ? Est-ce que c'est forcément quelque chose qui doit être caché, qui est sale ? Ou est-ce qu'au contraire, on peut imaginer que c'est quelque chose qui est finalement assez intéressant, qu'on peut venir l'observer, que ça crée un paysage urbain qui est extrêmement riche, que ça maintient des emplois aussi qui sont des emplois... extrêmement intéressant et varié dans des centres-villes. Et comment est-ce qu'on peut arriver à rendre compatible l'écologie, le développement urbain et l'économie et l'industrie, qui ne sont pas forcément des choses qui sont contradictoires. Et donc ça a été un peu l'objet de mes recherches dans le cadre de ce master aux États-Unis, où j'avais réfléchi à ces questions-là en prenant pour exemple la ville de Portland, en Oregon. Et c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi avec Lydia et Benoît, avec qui on a répondu à ce concours, le site de Bassins, donc à Bordeaux, puisqu'il s'agit du port et que l'idée, c'est évidemment de garder le port, de continuer à développer son économie, ses activités, mais tout en essayant de trouver un accès au fleuve pour les habitants et en essayant de recréer des liens, des connexions pour à la fois les Bordelais et les habitants de Bassins. Donc c'est vrai que c'est une thématique qui m'intéresse et que je pense qui est très riche d'un point de vue du projet, en tout cas pour une réflexion urbaine et paysagère.
Alors est-ce que vous pouvez le décrire, ce projet ?
Oui, alors à Bassins, c'est effectivement un site qui est, je crois que c'est 70% quasiment de la commune qui est occupée par le port, qui est un port extrêmement actif, avec différents types d'industries, et le fait que le port soit évidemment très actif et que le fleuve et la Garonne sont complètement inaccessibles pour les habitants. Et il y a cette commune de Bassins qui est installée sur des coteaux, et l'enjeu, c'est d'essayer de recréer des connexions à la fois naturelles, paysagères évidemment, mais aussi humaine, sociale, entre d'un côté cette commune, ce centre urbain constitué, et puis la Garonne, sachant que la difficulté est qu'entre le port et, et la ville de Bassens, il y a la voie LGV qui coupe complètement les deux tissus urbains en deux zones complètement séparées et complètement infranchissables, quoi. Donc, ce qu'on a cherché à développer, c'est de mettre en place une nouvelle trame paysagère très forte, sachant que sur ce port, il y a aussi des énormes friches, des sites qui sont complètement délaissés. Et l'idée, c'était de réinstaller un paysage, mais de parler d'un paysage productif qui vienne redonner une certaine structure, une trame assez forte au port et qui vienne créer des liens en se servant de cette trame pour à la fois créer un nouveau système de mobilité, un système de gestion des eaux vertueux. Et puis, quand on parle de paysage productif, ça veut dire que ce n'est pas juste un paysage qui est contemplatif, mais se servir vraiment du paysage comme une ressource. Donc, imaginez qu'on puisse venir fertiliser des sols, avoir une activité de biomasse, par exemple. Donc, vraiment se servir du paysage pour lui donner un intérêt économique et une vraie valeur pour le port et pour la ville.
Vous avez été regarder un petit peu les autres projets qui...
Oui, alors très très brièvement, parce que je crois qu'on n'a pas encore accès aux panneaux.
Ah, d'accord.
Donc on voit simplement des images. Donc c'est un peu difficile de comprendre la totalité, mais j'ai hâte, en début février, là, il y a un cycle de conférences et de rencontres qui sont organisées sur 2 jours, où on va justement pouvoir rencontrer les différents lauréats, membres du jury. Oui. Et vraiment pouvoir échanger sur notre projet, donc ça c'est intéressant.
Ouais. Comment, en travaillant dans une agence avec le poste que vous avez, qui est quand même un poste à responsabilité dans une très belle agence, comment on arrive à faire des projets en off comme ça?
Alors,
vous y passez vos week-ends?
Non, j'ai eu beaucoup de chance d'un point de vue timing, parce que j'ai eu mon premier enfant cet été, et j'ai profité de mon congé maternité pour faire ce concours, voilà.
Ouais. Bon, et vos coéquipières, elles sont... Comment vous avez décidé de le faire ensemble? Pourquoi?
Alors,
est-ce que vous connaissiez? Quels sont un peu leurs profils?
Ouais. Alors, j'ai fait ce projet avec Lydia Blasco, qui est une architecte urbaniste comme moi. On s'est rencontrées toutes les deux chez UAPS, donc Admis de Poit, il y a maintenant 7 ans. Et on a adoré travailler ensemble, on est toujours resté en contact, on a toujours échangé sur nos projets. Et elle a monté son agence depuis, donc elle est à son compte maintenant depuis 3 ans. Et donc c'est vrai qu'on apprécie et on continue toujours à travailler ensemble, à collaborer avec chacune nos disponibilités, etc. Mais c'est vrai qu'on aime travailler ensemble, donc on essaye de collaborer au maximum. Et on a travaillé également avec Benoît Danels, qui est paysagiste, qu'on a aussi rencontré chez UAPS, où on a toutes les deux pu travailler avec elle. Et on a aussi apprécié cette collaboration, donc on a fait appel à elle en tant que paysagiste.
Elle est indépendante, elle?
Non.
Non.
Elle travaille également en agence.
En agence, ouais. D'accord. Bon, donc ça a été une bulle d'air, peut-être?
Oui, oui, donc c'était très... très intéressant de faire ça, chacune avec nos emplois du temps qui sont un peu différents. Mais c'est vrai que Lydia étant à son compte, elle était aussi plus disponible pour pouvoir se dégager du temps. Et puis moi, voilà, j'avais aussi du temps à ce moment-là, donc c'est vrai que ça a assez bien marché.
Bon. Vous commencez à récolter les fruits de ce succès, ou vous le sentez? Pas encore, peut-être.
C'est encore un peu tôt,
ouais.
mais on espère que ça va nous ouvrir des portes, on espère que ça va... Peut-être qu'il va y avoir des commandes, enfin en tout cas pouvoir aussi approfondir le projet, parce que Europe 1, c'est un concours, on rend 3 panneaux, donc l'idée c'est de développer une idée assez forte. Mais ensuite on sent bien que tout l'intérêt c'est de pouvoir continuer à travailler ce projet avec les acteurs, de pouvoir concerter et le faire évoluer. Donc c'est ça qui nous intéresserait, évidemment.
Ouais. Et donc, en fait, dans les différents lauréats, vous pouvez vous regrouper pour implémenter, enrichir? C'est ça?
Je crois, oui. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Je découvre aussi, parce que c'est la première fois que je participe à Europe 1. Donc, on découvre un peu ça. Mais c'est vrai qu'on espère, en tout cas, pouvoir rencontrer aussi les autres lauréats et regarder un peu la façon dont ils ont travaillé et voir s'il y a des moyens de, effectivement, collaborer.
Donc, votre coéquipière Lydia Blasco s'est mise à son compte.
Oui.
Alors, quelles difficultés rencontre-t-elle dans ce démarrage, ou quelles sont aussi les opportunités qu'elle peut trouver, si vous pouvez parler en son nom.
Oui, bien sûr. Non, c'est vrai que Lydia s'est effectivement mise à son compte il y a 3-4 ans. Elle a créé une agence qui s'appelle YAP, YAP Architecture. Et voilà. Et puis j'ai effectivement suivi aussi l'évolution de cette création d'agence qui fonctionne avec des commandes et qui fonctionne très bien aujourd'hui. Je vois que c'est effectivement peut-être toujours un petit peu plus difficile, ou en tout cas on est moins nombreuses en tant que femmes dans la création d'agences. Je crois qu'il y a un petit peu moins de 10% aujourd'hui de femmes architectes qui montent leur agence. Bon, à la fois ça ne peut que s'améliorer, mais c'est vrai que c'est toujours un peu difficile au démarrage, ou en tout cas ça met un peu de temps avant de vraiment avoir des commandes.
Et de gagner la confiance du client,
etc. Donc,
Et vous pensez que le fait d'être une femme est un frein ?
Je pense que... je ne sais pas si je peux dire que c'est un frein. En tout cas, je regrette qu'on soit peu nombreuses.
Oui.
C'est vrai que dans les lauréats, les prix... Alors, évidemment, pas pour Europan. Je pense que c'est relativement équilibré. Mais on voit que c'est quand même un métier qui est extrêmement masculin, alors que dans le cadre des études, c'est très mixte.
Ouais.
Donc voilà, je ne sais pas si c'est plus difficile pour une femme. En tout cas, il se trouve qu'on est moins nombreuses.
Ouais. En effet, on a récemment reçu une grille de taillandier qui témoignait à ce sujet, en rappelant qu'il y avait beaucoup de femmes en école, enfin de jeunes femmes en école d'architecture, et qu'après, c'était plus du tout représentatif comme dans les écoles, et qu'il était important que les femmes architectes travaillent l'idée du modèle. C'est-à-dire qu'une femme peut aussi être inspirante pour d'autres femmes en tant qu'architecte.
Oui, c'est vrai, tout à fait.
Ouais. Donc, vous allez...
Donc voilà, non, en tout cas, j'admire le chemin qu'elle a déjà parcouru, et j'espère pouvoir en faire autant. C'est un challenge aussi sur le plan personnel. Voilà.
J'imagine que là, vous le touchez du doigt.
Oui.
Bon, ça se tasse avec
ouais, pareil.
Au fil des ans. C'est un autre travail en soi.
Oui, qui est très beau aussi.
Qui est très beau aussi. Est-ce que justement, le fait d'être une femme, vous apportez un regard un peu différent dans votre approche architecturale et dans la manière de dessiner l'espace ? Alors peut-être que vous, dans vos projets d'urbanisme, l'échelle est tellement grande que ça se ressent moins.
C'est une bonne question, je ne saurais pas forcément répondre.
Alors, en dehors du caractère purement féminin, votre personnalité en tant qu'architecte, vous pourriez la décrire très rapidement, ou c'est difficile de parler de soi ?
Oui, c'est toujours difficile de parler de soi. C'est vrai que pour l'instant, j'ai essayé de vraiment tirer un peu profit de toutes ces expériences à l'international pour essayer de mettre en place une pratique qui serait entre guillemets la mienne, mais c'est toujours un peu difficile quand on travaille en agence puisqu'on travaille pour quelqu'un. Donc tout l'enjeu après pour moi, c'est effectivement de capitaliser sur tout ce que j'ai pu faire, mais d'arriver à créer ma propre approche, ma propre vision du métier, ma propre identité en tant que architecte. Mais aujourd'hui, voilà, quand on travaille pour quelqu'un, forcément, on s'adapte un petit peu à ses autres personnalités.
Oui. Vous avez encore un bon chemin à parcourir.
Voilà, en tout cas, il y a du chemin à parcourir, mais c'est vrai que j'ai envie de parcourir ce chemin, et on sent effectivement qu'il y a beaucoup de possibles, qu'il y a beaucoup à faire, qu'il y a quand même beaucoup de projets. Il y a une commande qui est riche en ce moment. Donc voilà, c'est vrai qu'on sent quand même. Je parlais de la condition effectivement féminine qui peut mettre un peu des freins par moment. Mais on sent quand même qu'il y a une commande assez riche, qu'il y a une place de plus en plus importante qui est faite aux jeunes. Donc je reste quand même très optimiste sur justement la création d'entreprises pour nous qui sommes jeunes architectes.
Vous êtes une passionnée.
Oui.
Bon. Et à l'agence de Dominique Perrault, en ce moment, vous travaillez sur, si vous pouvez en parler, sur quel type de projet ?
Alors, c'est vraiment... Il y a plusieurs types de projets, parce que ce sont les projets urbains. Je continue toujours à travailler sur le village olympique, puisqu'on est en train de monter une exposition qui aura lieu dans le cadre de la Biennale d'architecture et du paysage de Versailles, la BAP 2022. Donc là, il y a tout un projet d'exposition autour du village olympique. Donc ça, c'est un projet. Je travaille aussi sur différentes études urbaines. L'une d'elles est au Mans, sur la ville du Mans, sur le réaménagement d'un ancien site militaire et son développement, donc le développement d'une friche. Mais voilà, je dirais qu'il y a un peu différents projets, différentes échelles, mais c'est très varié.
Donc pour nos auditeurs profanes, par exemple, ce projet au Mans, vous redéfinissez les circulations, vous créez des porosités avec
Oui, là, l'enjeu, c'est ça, c'est de réaménager tout un site militaire qui était complètement, parce que militaire, complètement fermé sur la ville, évidemment.
Et vous travaillez avec des programmistes,
j'imagine. Donc on travaille avec des programmistes, on travaille avec des paysagistes, on travaille avec Michel Desvignes. On travaille avec des ingénieurs, on travaille toujours dans ces projets-là urbains avec des groupements de maîtrise d'œuvre qui sont assez larges, hein, des architectes, paysagistes, ingénieurs, experts en mobilité, en biodiversité. Donc on a toujours des partenaires qui sont assez copieux et toujours intéressants. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus que les projets urbains sont des projets souvent de réaménagement de friches urbaines, justement dans cette optique de recyclage, de foncier. Et dans cette approche durable, hein, on sent que la commande, elle évolue aussi, puisque de plus en plus, ce sont des études qui sont vraiment dans des tissus constitués, où il s'agit de réaménager un site qui a déjà eu une occupation par le passé.
Ouais. Ce site militaire, il y a une dépollution ?
Oui.
Ouais. Ouais. C'est souvent la problématique.
C'est souvent la problématique, parce que c'est toujours cher. Mais c'est vrai que ça, c'est commun à tous les sites, effectivement, qui sont réaménagés.
On sait que quand on travaille dans des grandes agences, parfois c'est difficile de se mettre à son compte et de partir parce qu'on a accès à des projets et à un certain confort, à une taille de projet qui est quand même très intéressante. Oui. Et aussi, il y a un certain confort, il y a la sécurité. Ceci dit, ça ne vous n'empêche pas de rêver. Et quel serait pour vous votre projet de rêve ?
C'est une question difficile. Je ne sais pas si j'ai un projet de rêve. Ce qui m'intéresserait, évidemment, c'est de pouvoir travailler avec des clients et des partenaires qui sont ambitieux, qui ont envie de faire des choses. Parce que les projets de rêve, souvent, sont des projets où le client et le commanditaire est un commanditaire intéressant.
Un bon projet, c'est un bon client.
C'est un bon client.
C'est la parole.
C'est la parole de tous les architectes, mais exactement. C'est vrai que c'est quand même la vérité. Donc j'espère effectivement avoir l'occasion de travailler avec des bons commanditaires quelque part. Ouais. Et puis ensuite, voilà, sur les thématiques qui peuvent m'intéresser, on parlait justement de ces développements industriels dans des tissus urbains. Si je peux être amenée à pouvoir continuer à travailler sur ces sujets qui me tiennent à cœur, c'est intéressant. Évidemment, je suis ouverte à tout, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir continuer à développer un thème de recherche et de le mettre en pratique.
Comment vous parliez tout à l'heure de vos convictions. Donc, j'ai toujours cette question, comment imaginez-vous, alors avant, je disais le monde d'après, et là, j'ai changé. C'est comment imaginez-vous le monde de demain, à la fois de manière globale et puis pour vous. Voilà.
Oui, c'est une question intéressante qui n'est jamais très facile, mais je crois qu'on le voit et on le vit tous les jours, et d'autant plus en ce moment que le monde de demain, enfin même le monde actuel, hein, on est dans une planète qui est fragile, avec des ressources limitées, et on sent que voilà, pour l'urbaniste et l'architecte, c'est là un terrain d'expérimentation qui est assez incroyable, qui est très riche. Et il y a beaucoup d'opportunités justement pour innover, parce qu'on est sur une planète avec des ressources limitées. Donc je pense que pour notre profession, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais c'est un vrai challenge et c'est extrêmement intéressant. Et après, d'un point de vue de la profession, je pense qu'il y a aussi une commande qui est de plus en plus complexe, justement parce qu'il faut intégrer un certain nombre de paramètres qui sont beaucoup plus nombreux. Il faut être, faut construire en biosourcé, il faut être bas carbone, il faut faire local. Mais il faut réfléchir à tout un tas de choses et on se rend bien compte que architecte, urbaniste seul, on n'y arrivera jamais. Donc ça demande à collaborer de plus en plus, à rechercher des vraies synergies avec d'autres professions aussi, à se former peut-être davantage sur d'autres domaines pour pouvoir justement être beaucoup plus polyvalent. Mmh. Et ça, je trouve que c'est des choses qui sont intéressantes.
Vous qui travaillez justement dans une agence emblématique, vous trouvez qu'à l'intérieur de ces agences, la bascule, elle se fait réellement? Enfin, ou est-ce que ce sont des dinosaures, ces agences? Il y a encore,
Oui, c'est des dinosaures.
Vous arrivez à batailler auprès des maîtres d'ouvrage?
Oui, et je pense qu'en plus, pour des grandes agences comme celle de Dominique Perrault, c'est presque plus simple parce que l'agence est plus importante, parce que Dominique Perrault a peut-être certainement une voix aussi qui est beaucoup plus écoutée, entendue. Donc je pense qu'il peut faire passer beaucoup plus de messages qu'une jeune agence. Et par ailleurs, au sein de l'agence, il y a aussi tout un département de recherche. Et c'est vrai que de pouvoir prendre le temps de faire de la recherche et de développer certains sujets qui tiennent à cœur l'agence, c'est une vraie chance. Voilà, j'ai tendance à croire que c'est plus simple pour une grande agence justement de pouvoir affronter ces défis.
Oui.
Mais voilà, j'espère que pour les jeunes architectes et les jeunes agences, c'est possible et j'en doute pas.
Ce qu'il y a, c'est que qui dit grande agence dit maître d'ouvrage assez costaud parce que les enjeux financiers sont plus importants, les tailles de projets sont importantes. Mmh. On se demande si l'agilité suit en fait. Le petit projet, la petite agence, c'est peut-être une maîtrise d'ouvrage plus sobre.
Oui, c'est vrai.
Et plus agile. C'est un peu dans ce sens-là.
Oui. Vous avez raison. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de travailler sur le projet du village olympique, qui est un projet à forte ambition, très forte ambition environnementale. Et donc là, on est sur un projet qui a une telle visibilité. Que ces ambitions-là, elles sont partagées par la maîtrise d'ouvrage. Mais vous avez raison, je pense que ça dépend beaucoup des projets. Mais ensuite, je crois que c'est vraiment le devoir de l'architecte
de batailler pour
répondre à ces enjeux. On n'a pas le choix.
Bon, donc finalement, ces grandes agences un peu dinosaures intègrent
oui,
tous ces paramètres. C'est pas que de la com, alors?
Non.
Vous nous rassurez.
Non, c'est pas que de la com.
Bon, donc finalement, le monde de demain, il est, même si ça paraît compliqué aujourd'hui, parce qu'on commence à toucher vraiment à comprendre que le changement climatique est bien là.
Mais il est intéressant pour nous, parce qu'on a des défis à relever, et puis je pense qu'il y a plein de pistes, il y a beaucoup de choses à faire, donc c'est
à nous de relever le défi. Bon, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui?
Je leur dirais déjà d'avoir beaucoup de persévérance, de s'accrocher dans les moments un peu difficiles, parce que c'est une profession qui est vraiment passionnante. Je leur dirais de suivre aussi un peu leur instinct, de s'ouvrir, évidemment de voyager s'ils le peuvent, mais aussi de s'ouvrir à d'autres facettes de la pratique. Pour justement, je crois que le métier évolue, qu'on doit collaborer de plus en plus. Et donc, pour collaborer, il faut avoir une bonne base commune en ingénierie, en paysage, en biodiversité, en numérique. Donc, je dirais que ce serait intéressant de se former, d'essayer de s'ouvrir à d'autres pratiques, d'essayer de comprendre un peu comment fonctionnent tous ces partenaires avec qui on va être amené à travailler pour essayer d'établir un vocabulaire commun. Et de ne pas juste faire de l'architecture, mais d'essayer de regarder un petit peu ce qui se passe dans d'autres domaines, parce qu'en fait, ça ne peut qu'enrichir leurs projets et leurs pratiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant.
Un mot de la fin?
Oui. Merci, déjà. Merci de m'avoir reçu. Et puis, j'espère évidemment que Europan sera porteur de nouvelles opportunités pour la suite.
Bon, vous avez déjà un parcours assez remarquable, donc bravo.
Merci.
Et j'espère pour vous un avenir aussi brillant que le début de votre parcours.
Gentil.
Voilà. Bravo pour tout. Merci.
Merci à vous.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas notre numéro en anglais et prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.